Bien, il est 14h30, donc nous pouvons commencer la dernière conférence des quatre conférences d'Anthony Grafton. Et comme l'a indiqué le professeur Marc Fumaroli, le titre en est « Le dernier voyage ».
Merci et merci à tous de m'avoir accompagné ces quatre voyages aux profondeurs des imprimeries perdues de la Renaissance. Contrairement à une idée trop répandue, le correcteur, et maintenant je cite un correcteur, l'auteur anonyme du livre superbe « Souvenir de la maison des mots » que j'ai découvert malheureusement sur Amazon, mais c'est quand même un livre, superbe que tous qui s'intéressent à l'édition et son développement devraient lire. Le correcteur n'est pas nécessairement un débile mental qu'un programme de correction automatique peut remplacer sans problème ou même avec avantage. Son métier, de fait, son métier tient du détective, recherche et filiature, du conservateur du patrimoine, respect des choses passées, du mouchard, du garçon de café, du journaliste et, last but not least, du général en chef et du chasseur de baleines. Comme le détective cherche dans une existence humaine les secrets, le correcteur traque dans un texte les coquilles et tout autre tare stylistique, grammatical, logique, historique, culturel. Ceux qui leur payent sont généralement mécontents des résultats de leur recherche et d'autant plus horrifiés qu'il y a davantage de résultats. Comme le conservateur du patrimoine, le correcteur proclame sa fidélité absolue à l'histoire. Il veut qu'on respecte les dates au jour près, sinon à l'heure près. Il ne transige pas sur une virgule qu'il estime nécessaire. Et surtout, même si les convictions d'un auteur furent à l'opposé des siennes, il vérifie avec un soin maniaque, à la majuscule près, les phrases citées. Le correcteur, comme l'homme du souterrain, est à la fois humide et confus de sa supériorité. C'est un surisseau clairvoyant et susceptible, continuellement offensé et voulant toujours se venger, mais n'y parvenant pas et renonçant à son projet. Ce que le client attend d'un garçon de café est qu'il soit vite et bien servi, ainsi l'auteur du correcteur. Comme le journaliste, le correcteur est obligé de poser maintes questions se rapportant à des cotations. L'auteur est obligé de répondre aux questions du correcteur. Mais l'auteur craint bien davantage d'être interrogé par le correcteur que par le journaliste, car il doit effectivement et précisément répondre au premier, non au second. C'est un panorama assez brillant, aussi détaillé que déprimant, que dessine notre correcteur anonyme. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans un dernier voyage aux imprimeries que nous avons investiguées pendant les dernières trois conférences. On va les examiner d'après des documents tirés des archives du musée Plantin. Document qui révèle, d'une part, que les correcteurs d'imprimerie de la Renaissance devaient eux aussi jouer plusieurs rôles à la fois, peut-être pas comme chasseur de baleines, mais au moins comme garçon de café, journaliste et conservateur de patrimoine, une situation qui menait à la Renaissance comme aujourd'hui souvent à des difficultés professionnelles et intellectuelles. Mais d'autre part, nous verrons qu'au moins dans la situation exceptionnelle qu'a existé à la boutique de Plantin, une vraie collaboration des égaux entre un correcteur et un savant devenait possible. Aux années 60 du XVIe siècle, Plantin se dédie à la préparation et puis à la production du plus grand projet éditorial du XVIe siècle, la Bible polyglotte d'Anvers. Et vous voyez là deux pages de titre superbes. En 1566, il négocie avec Gabriel Zayas, secrétaire d'État de Philippe II, en quête d'un soutien financier pour cette édition grandiose. qui va comporter le texte de l'Ancien Testament en hébreu, araméen, grec et latin, et le texte du Nouveau Testament en grec, syriaque et latin. Projet qui finira par remplir 8 volumes énormes qu'on va montrer à Montaigne dans la bibliothèque du Vatican 10 ans après. Plantin explique soigneusement qu'il ne peut pas imprimer un tel travail s'il ne peut pas trouver des gens capables de corriger. Il prend cette nécessité tellement au sérieux que quand il rencontre un jeune homme qui peut corriger des textes en hébreu et araméen, Franciscus Raphaelengius, il le marie immédiatement à sa fille aînée, comme il explique, afin d'être en mesure de le retenir plus efficacement et de profiter de ses compétences, compte tenu de mon espoir que je pourrais bénéficier au public. En outre, Plantin avait, comme il dit, aurait déjà dépensé une bonne partie de mon argent pour soutenir les chercheurs dans ma maison, à mes propres frais, pour corriger le dictionnaire de tous les mots hébreux de la Bible. Il faut pas prendre cette lettre au pied, comme on dit, de la lettre, au moins le pluriel. Jusqu'alors, il n'y avait eu qu'un chercheur, un juif converti qui enseignait l'hébreu à Cologne, Johannes Isaac Levita. Les dossiers de paiement de Plantin indiquent que Isaac habitait dans sa maison du 10 novembre 1563 au 21 octobre 1564 et qu'il a reçu près de 70 florins pour son travail. En outre, Plantin avait déjà acheté chez Jérôme Marneff à Paris pour la somme importante de 10 florins, 12 sous, un exemplaire du lexique hébreu de l'hébraïsante dominicain Sante Pagnini, un grand érudit des premières décennies du XVIe siècle, qui avait fait une nouvelle traduction latine de l'Ancien Testament d'après le texte hébreu. Plantin emploie Isaac en qualité de correcteur pour ce livre et le convertit se met immédiatement au travail. Au début de mars 1564, Plantin et Isaac se rendent ensemble à Louvain pour montrer le texte comme Isaac l'a établi et corrigé au censeur Cornelis Petri, qui l'approuve. Mais bien que Isaac continue à vivre chez Plantin pour au moins 7 mois, et bien que Plantin imprime la grammaire hébraïque qu'Isaac vient d'écrire, le projet de publier une nouvelle édition du lexique de Pagnini reste sans résultat. Le livre qu'Isaac a corrigé pour la presse, le texte belge, comme on dit, entre dans la collecte, dans la bibliothèque de Raphaelengius, et se trouve actuellement à la Bibliothèque universitaire de Leiden, aux Pays-Bas. C'est une chose superbe, un livre imprimé qui a été vraiment transformé en manuscrit par son possesseur. Ses marges sont chargées, presque écrasées par des centaines d'annotations. En outre, 44 pages de manuscrits remplis de notes d'Isaac sont reliées dans le même volume. Cet hybride magnifique, imprimé et manuscrit à la fois, nous amène directement dans la boutique de Plantin. Les annotations d'Isaac révèlent la variété des traditions et des pratiques qu'il a employées pour effectuer son travail, la pluralité des rôles qu'il a dû jouer ce faisant, ainsi que les pressions multiples qu'il devait ressentir tandis qu'il essayait de résoudre des problèmes délicats et exigeants de la philologie, de l'exégèse, de la théologie. Dans le meilleur des cas, la correction était un art impur. On luttait non seulement avec les variantes de la tradition, mais aussi avec les nouvelles croquis créées par les compositeurs pendant le processus de production. Mais la correction de textes hébraïques, comme la correction des textes des Grecs quelques décennies avant, posait des difficultés particulières. La plupart des textes hébreux que les imprimeurs produisaient étaient destinés au marché des étudiants et des professeurs. On imprimait les livres les plus courts et simples de la Bible en hébreu avec une mise en page qui devrait faciliter la prise des annotations. On sortit pas mal de grammaire, on sortit quelques traductions. Mais même pour corriger, même pour produire et corriger ces œuvres élémentaires, il fallait que les imprimeurs emploient des juifs, soit des pratiquants, soit des convertis, pour composer, et surtout parce qu'il y avait aussi des chrétiens, des artisans chrétiens, qui pouvaient composer un texte en hébreu pour corriger les textes. Aussitôt qu'on employait une de ces personnes, de nombreux problèmes, non seulement techniques, mais aussi personnels, se présentaient, souvent à cause des différences culturelles, si on peut le dire. Au début du XVIe siècle, les Amerbach à Bâle veulent employer un hébraïsant pour vérifier les mots hébreux dans leur édition critique des œuvres de Jérôme. Conrad Pelikan, qui travaille en tant que correcteur pour Amerbach, recommande un converti, le juif espagnol Matthias Adriani, donc il évoque la compétence de façon impressionnante. Il est un hébraïsant très profond, un érudit, un savant. Vous verrez tous les mystères de l'hébreu ensevelis dans une enveloppe en latin. J'ai appris plus de lui que de toute autre personne. J'ai même passé des nuits blanches d'études avec lui. Mais Pelikan doit avouer aussi que quelques problèmes de communication persistent. En raison des erreurs grammaticales dans son latin, il faut que vous l'écoutiez très, très patiemment. Vos fils doivent l'écouter, tandis qu'ils interprètent la Bible comme ils le peuvent en latin, mais ils devront tenir compte du fait qu'ils parlent sans se préoccuper de l'accord grammatical. Les correcteurs de textes hébreux, en d'autres termes, manquaient souvent de la compétence de base que partageaient tous leurs collègues chrétiens, c'est-à-dire une connaissance solide du latin, ce qui était non seulement le langage des textes, par exemple des grammaires hébraïques, mais aussi le langage parlé dans l'atelier. Dans le cas d'Adriani, en outre, les Amerbach devaient aussi pardonner la confiance en soi un peu extrême qui l'amène à les exhorter à renvoyer tous les autres hébraïsants et par la suite tous les autres correcteurs pour l'utiliser seul, ce qui aurait mené à des résultats assez problématiques quand il s'agissait de corriger les textes latins de Saint Jérôme. Comme Adriani, Isaac vient au christianisme et à la culture latine relativement tard dans la vie. Après avoir servi comme rabbin à Wetzlar, en Hesse, il devient protestant sous l'influence de Johannes Drakonites. Il affirme que plusieurs lectures d'Isaïe l'ont convaincu que le prophète avait prédit la venue de Jésus. Baptisé, il essaie de maîtriser le latin à l'université de Marbourg. En 1547, il se rend à Louvain, où il enseigne l'hébreu et l'araméen jusqu'en 1551 et se convertit au catholicisme. Puis il s'installe à Cologne, où il occupe une chaire en hébreu jusqu'à sa mort en 1577. Tout au long de sa vie, les autorités chrétiennes le soupçonnent de judaïser. À la fin des années 60, quelqu'un informe les autorités à Cologne, bizarrement, d'avoir vu Isaac lors des sacrifices juifs à Deutz. Qu'est-ce que c'était les sacrifices juifs à Deutz? Je ne sais pas. Après la chute du Deuxième Temple, il y a eu des sacrifices juifs, mais quand même. Vêtu d'un éphod de lin, c'est-à-dire le vêtement qui est prêté par le grand prêtre des Israélites et par David dans l'Ancien Testament. C'est un rapport curieux. Environ 1570, il est accusé de mauvaise conduite à la messe à Cologne. C'est donc évident qu'il reste une figure marginale et controversée. Quand il se plaint de sa pauvreté, les autorités universitaires trouvent une maison qu'il peut acheter et se font rembourser le prix à 5 ou 6% d'intérêt. Comme l'a noté Elisheva Kalabach, l'ironie de ce renversement des rôles, quand le gouvernement de la ville et de l'université prête de l'argent à intérêt à un pauvre juif, semble avoir été ignoré par les participants, peut-être pas par Isaac. Isaac éprouve toujours des difficultés avec les langues des chrétiens. Son fils Stéphane, qui s'est converti avec lui comme un petit garçon, écrivait une apologie célèbre pour son père après sa mort, dans laquelle il défend sa piété chrétienne comme absolue. Mais même le fils doit avouer que son père n'a jamais été une grosse zoche, plaudere und schnacher, peut-être pourrait-on dire un grand causeur en latin parlé. Comme Adriani, Isaac écrit et probablement parle en latin de cuisine, entrecoupé de fautes grammaticales et syntaxiques. Dans une œuvre polémique de 1559, il admet que si quelqu'un regarde de très près les mots dans ce petit livre en les soumettant à une critique sévère, il devrait comprendre qu'un certain jeune étudiant m'a soutenu dans la composition du latin, mais il n'était pas en mesure de travailler avec moi aussi souvent qu'on voulait en cas de difficulté. En dépit de ces problèmes, Isaac fait de son mieux pour effectuer le vaste travail éditorial que Plantin lui assigne. Bien qu'il ne soit pas formellement classé avec les autres correcteurs dans les dossiers de paiement de Plantin, ses annotations montrent qu'il se rend familier, comme les autres correcteurs, avec toutes les procédures de l'impression. Il apprend à utiliser les marques techniques des correcteurs, d'indiquer des segments de texte qui doivent être omis. Il écrit « Hank Maniant » ou « Maniant », où un Américain devrait écrire « Stet » par d'un côté de passage qu'il veut retenir dans le texte. Il écrit des lettres et des mots hébreux. Qui devait être inséré dans le texte, dans une écriture manifestement conçue, et vous voyez des exemples, là, pour être lu par les compositeurs chrétiens qui n'arrivent pas à déchiffrer. C'est vraiment une écriture chrétienne que pratique le converti, c'est pas ça, c'est une écriture normale. Qui pourrait être lu par des compositeurs chrétiens qui n'arrivaient pas à déchiffrer l'écriture hébraïque cursive. Et quand il veut changer la mise en page, la police des caractères d'un passage, il sait écrire les instructions dans la marge, en allemand. Voilà. Cela devrait être réglé en grosses lettres et un espace doit être laissé, car il est une nouvelle racine. Plus remarquable encore, Isaac apprend, il fait connaissance des facteurs qui expliquent la plupart des erreurs des compositeurs. Et voilà une de ces explications-là que je vais traduire. « Je n'ignore pas la cause, écrit-il à un moment donné, de cette erreur. Elle provenait du compositeur, parce que les lettres en question, Samech et Aïn, sont très proches les unes des autres dans sa casse. Le compositeur peut donc facilement attraper une à la place de l'autre ou mettre une Aïn à la place d'une Samech quand il distribue le type. » Ensuite, le correcteur n'a pas corrigé cette erreur, mais je doute qu'elle s'est trouvée dans la copie manuscrite. Ailleurs, il adopte une explication plus simple. Ces mots doivent être mis au mauvais endroit par le vin du compositeur, c'est-à-dire parce que le compositeur a dû être ivre, sinon je ne peux pas comprendre. À certains moments, Isaac va jusqu'à étaler le langage latin technique de la critique textuelle. Selon Panini, l'exégète et commentateur médiéval David Kimchi avait préféré une leçon particulière dans le deuxième livre des rois, c'est un passage difficile. Isaac souligne qu'en fait, Kimchi aurait préféré une autre lecture. Ceci, explique-t-il, c'est ce que j'ai trouvé dans les textes les plus corrects. Tous les rabbins aussi en témoignent. Par conséquent, j'ai corrigé le texte de Pagny dans ce passage en supprimant des paroles qui étaient peu convenables. C'est une annotation parfaite au style des humanistes. Au fur et à mesure, Isaac inscrit les éléments d'une révision radicale dans les marges et parfois dans le texte lui-même du livre massif et érudit de Panini. La pratique normale du dominicain est de citer des passages bibliques en latin, ne donnant que le mot en question en hébreu. En revanche, Isaac se met à remplir chaque passage discuté de n'importe quelle longueur dans l'hébreu original. Quoiqu'il ne puisse pas critiquer de façon convaincante le style latin de Panini, il développe des opinions bien arrêtées sur son hébreu qui trouvent leur expression depuis le début de ses annotations. Quand Isaac examine le titre hébreu du lexique, il fait une correction en supprimant une lettre qu'il croit superflue. Il serait plus correct, dit-il, d'écrire « Ketz Otar » au place de « Ketz Ha'otar » le Shon HaKodesh, c'est-à-dire « trésor de la langue sainte ». Il ajoute également des dizaines d'annotations qui documentent les nouvelles significations que les paroles hébraïques ont accumulées dans l'hébreu post-biblique. C'est donc, il donne donc nombre de suppléments qui sont vraiment formulés en latin. Par exemple, il ajoute à la définition que donne Panini du verbe « ganav »« voler » à l'explication de l'expression « gonev da'at » ça veut dire celui qui vole vos connaissances et par extension métaphorique, quelqu'un qui vous induit en erreur délibérément en maintenant sa silence. La correction, comme Isaac la pratique, doit confronter à des questions très complexes. La manière dont il effectue son travail reflète les pressions multiples qu'il doit subir lorsqu'il travaille et les multiples sources de ses compétences techniques. Quand Isaac qualifie ou corrige les définitions qu'avait données Pagny, en ajoutant les nouveaux sens et des exemples plus modernes tirés de l'hébreu rabbinique, il insiste que c'est de sa connaissance supérieure des traditions de l'érudition juive qui lui permettent de le faire. Il remarque par exemple, à propos du mot « élé » dans un vers d'Ézéchiel, « élé le fort », que le mot peut être écrit en deux façons, avec ou sans un « yud », deux « yud ». On peut l'écrire avec un, comme ici, ou avec deux. Ça arrive peut-être, dit Panini, à cause de l'erreur d'un scribe, selon Kimchi dans le livre de Racine. Et parmi ceux de l'Est, il est écrit avec un yod. Mais pour ceux de l'Ouest, il manque un yod. Et dans certains textes, il se trouve avec un yod. Mais dans le Misra, que nous devrions suivre, il est dit qu'il n'a pas un yod. J'ai l'impression que peu de lecteurs chrétiens, même ceux qui auraient pu reconnaître que le Kimchi que citait Pagny était David Kimchi, le savant du XIIe siècle qui avait fait un grand dictionnaire de l'hébreu, auraient été en mesure d'identifier ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. Qu'est-ce que c'était ce Misra qui devait évidemment faire autorité? Isaac savait exactement ce qui était en cause dans ce passage un peu confus. Le texte de la Bible rabbinique, comme il se trouvait dans les grandes éditions de Bomberg, comporte des voyelles et des accents qui ne faisaient pas partie de sa forme originelle. En outre, il y a un apparat textuel dans les marges des colonnes et au pied de la page, et au sommet de la page, qui instruit le lecteur que certains mots doivent être lus à haute voix comme s'ils étaient d'une autre orthographe. Cet apparat est la Masora, c'est-à-dire l'apparat traditionnel créé par les grammairiens juifs de la seconde moitié du premier millénaire. Ces grammairiens qui travaillaient à Tibériade et ailleurs en Palestine. Selon la tradition, ils appartenaient à des écoles désignées de l'Est et de l'Ouest. Le Masora se trouve sous diverses formes dans les manuscrits de la Bible hébraïque. Jacob ben Chaim, éditeur de la seconde Bible rabbinique de Bomberg, la configure pour l'impression pour la première fois. Un autre grand érudit juif, Elias Levita, qui travaille lui-même en tant que correcteur, retrace l'histoire des écoles masorétiques et leurs travaux dans un livre avec le titre « Masoret ha-Masoret, tradition de la tradition » qui apparaît en 1538 et traduit passionnément en latin un an après par Sébastien Münster. Isaac connaît très bien tant les textes bibliques, tant leur apparat, tant l'analyse de Levita, ils corrigent le terme inintelligible Misra en Masora, et ils conseillent au lecteur, lisez Élie, Elijah Levita, dans son livre de la tradition, et vous y trouverez comme les Masorètes de l'Est différaient de ceux de l'Ouest. Donc, il y avait commencé de nombreux érudits chrétiens qui insistaient que les Juifs avaient délibérément corrompu le texte de la Bible en hébreu. Certains regardaient le Masora avec ses instructions, lisaient ça dans une autre forme, comme une preuve directe de la corruption du texte qui a été effectuée par les Juifs. Mais Isaac refute ce bobard en démontrant le consensus des Masorètes et des manuscrits. Vous verrez, dit-il ici, qu'ils ne sont pas en désaccord que sur certains voyelles et accents qui n'ont rien à voir avec un désaccord sur le vrai sens du texte. Dans le cadre de ces notes, dans le cadre de ces annotations qui vont être ajoutées au dictionnaire, Isaac donne quelque chose comme une introduction à la Bible hébraïque pour les utilisants. Donc, c'est une grande amélioration du texte. Mais on voit aussi que dans ce cas, on a un hébraïsant chrétien, converti chrétien, qui affirme la valeur de la tradition millénaire de sciences grammaticales et philologiques des Juifs, profondément enracinée dans les pratiques de leurs scribes et de leurs savants, et qui, selon lui, reste indispensable aux hébraïsants chrétiens. À certains moments, Isaac va encore plus loin en affirmant la valeur de la tradition érudite des Juifs. Il se regarde comme un aristocrate parmi les Juifs, c'est-à-dire un membre de la tribu de Lévi, un Lévite. Parfois, tandis qu'il travaille sur Panini, il affirme son autorité en se décrivant comme... Ah, pardon, c'est une autre de ses annotations sur le Masora, où il dit qu'il y a des choses superbes dans le Masora sur une question particulière. Parfois, tandis qu'il travaille sur Panini, Isaac affirme son autorité en se décrivant explicitement comme un représentant de la grande tradition de l'érudition juive. Dans le premier livre de Samuel, lorsque David et Abishai viennent trouver Saül, le texte nous informe que le roi dormait dans la barricade, Bamagal, avec sa lance plantée dans le sol à sa tête. Isaac insiste sur sa propre explication du texte. Le Magal, selon lui, a été une fortification qui se composait d'un convoi de chariots. Mes ancêtres et maîtres, les grands savants, m'ont toujours dit que Magal, veut dire en allemand une Wagenburg. Ici et ailleurs, le converti au christianisme insiste sur la supériorité de la science juive, dont il est et reste l'héritier fier. Mais à d'autres occasions, Isaac prend ses distances avec ses origines personnelles. Panini, comme la plupart des savants chrétiens, doit discuter une question centrale, soit de la lexicographie hébraïque, soit de l'exégèse chrétienne. Est-ce que le mot hébreu « alma » signifie « vierge » ou tout simplement « jeune fille » dans le septième chapitre d'Isaïe, où il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, la vierge. » Alma deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Comme l'on sait, ce verset est une composante principale de l'interprétation christologique de l'Ancien Testament. Dans une annotation marginale, une annotation remarquable, Isaac rappelle une visite au grand imprimeur chrétien de livres en hébreu et en araméen, Daniel Bomberg. Bomberg, il dit, un homme Pieux est un hébraïsant expert, avait des arguments superbes contre les Juifs à propos du 30e chapitre du livre des Proverbes, où le mot Alma apparaît encore. Et il me les a donnés dans l'année 1549, et je les ai notés, mais je les ai perdus, ou ils en étaient enrobés. Dans ce cas, Isaac s'identifie explicitement avec l'érudition chrétienne contre les Juifs et leur tradition d'interprétation. Tandis qu'Isaac effectue ses travaux sur le lexique de Panini, en d'autres termes, son sens de sa propre identité se déporte un peu vertigineusement, de même que les principes qu'il applique au texte. Au fur et à mesure, des pressions extérieures, qui exercent elles aussi une influence sur ses méthodes de correction, deviennent plus graves. Lorsque Isaac effectue ce processus de correction, il s'engage aussi dans un débat avec des lexicographes chrétiens. En 1557, Frobin avait publié à Bâle un dictionnaire hébreu compilé par le chercheur luthérien récemment décédé, Johannes Forster, qui avait été un élève de Reuchlin. Bien que Forster eût appris l'hébreu au pied du kabbaliste Reuchlin, il commence à travers le temps à croire, comme Luther, que les Juifs avaient délibérément essayé de dissimuler les véritables significations de la Bible en l'expliquant de manière délibérément déceptive. Pire encore, des érudits chrétiens s'eussent rabbinisés en s'apprentissant aux Juifs. Forster proclame que les définitions qu'il a mises dans son lexique se réfèrent exclusivement aux usages que se trouvent dans la Bible. Quoique Forster meure avant la parution de son lexique, le savant anglais Lawrence Humphrey, qui travaille comme castigator, vous voyez là, on a le dossier de paiement, pour Frobin en 57 à 58, corrige le texte et supervise sa publication. Un correcteur expérimenté, Humphrey est aussi un philologue trilingue qui insiste sur l'importance pour la théologie et l'exégèse chrétien de l'étude des langues anciennes. Dans son traité brillant Interpretatio Linguarum, sur l'interprétation de langue, qui sort en 59, il raconte la façon dont un compositeur avait essayé de corriger le texte de la Bible après que le correcteur eut terminé sa lecture des dernières épreuves. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul pose une question et donne la réponse. Hébreux sunt et ego. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Le compositeur, selon Humphrey, aurait remplacé le mot hébreu par le quasi homonyme hébreu. Hébreu sunt et ego. Sont-ils ivres? Moi aussi. Donc, ce sont les catastrophes qui peuvent avoir lieu quand un imprimeur ne dispose pas d'un personnel suffisamment cultivé. Quand même, Humphrey partage les opinions anti-rabbiniques de Forster. La connaissance des langues repose, à son avis, sur l'application systématique des principes de la philologie à tous les textes, aussi aux textes bibliques, comme s'il était un texte grec ou latin. On peut tout simplement ignorer les commentaires des rabbins qui sont aussi tardifs que problématiques. Donc, il honne l'édition frobenienne du livre de Forster d'une préface passionnée dans laquelle il loue la méthode de ce lexique. Ses explications de la signification des mots sont saines et pieuses, car il utilise le Christ, pas le Kabbala, les apôtres, pas les rabbins ou les interprètes talmudiques. Ces soi-disant puristes enragent Isaac, qui les décrit brillamment comme des Cicéroniens, par analogie aux humanistes italiens qui avaient refusé d'utiliser un seul mot latin qui ne figurait pas dans les œuvres de Cicéron, idéalement sous la forme dont il avait besoin. Il dénonce la folie qui les a persuadés à regarder Saint Jérôme comme un guide digne de confiance pour l'hébreu. En fait, le père latin les aurait induits en erreur. Et Humphrey et les autres avaient suivi l'enseignement de Jérôme quand il soutenait à tort que le mot hébreu « Laila », nuit, devait être du genre féminin parce que sa terminaison avec un « hé » était normalement féminine. À maintes reprises, de fait, comme il explique, c'est un mot absolument masculin. Et vous voyez ici un exemple merveilleux du latin d'Isaac. C'est superbe. Hic hunc Laurentius Humfridus Rogo. C'est vraiment superbe. À maintes reprises, il dénonce l'idée que la Bible peut servir de source unique au lexicographe ou grammairien de la langue hébraïque. Au fur et à mesure, pendant ces débats, le correcteur devient plus et plus conscient de ses origines. Il insiste plus et plus fortement sur la nécessité de connaître et d'utiliser les outils de la tradition érudite grecque. Les conversations qu'Isaac tient avec les savants et écrivains, des gens très indépendants qui s'assemblent en foule dans la boutique de Plantin, lui donnent aussi à penser. Une de ses annotations enregistre une conversation avec un partenaire de Plantin, Ioannes Goropius Becanus, qui a lieu en 1563. Goropius est historien et linguiste, c'est un polyglotte ingénieux et érudit, qui montre de façon très convaincante que le néerlandais, à cause de sa pléthore de monosyllabes, doit être la plus ancienne et primitive des langues, la langue qui a été parlée dans le jardin d'Éden. Becanus veut savoir pourquoi la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, rendait un vers de Deutéronome dans une forme différente du texte hébraïque. Et vous voyez les versions différentes là. Selon la Septante, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des anges. Mais selon le texte hébraïque, c'était d'après le nombre des enfants d'Israël. Et ça, c'est la traduction qu'on cite normalement maintenant. Isaac a fait une interprétation assez élaborée, qu'il révise plusieurs fois, c'est-à-dire que toutes deux versions reflètent le sens le plus profond du texte. La Septante, explique-t-il, ne rend pas la lettre, mais le sens. Et comme il y a de mystère dans ce passage, je tiens à les produire du peu du livre que le bon Dieu m'a accordé. Ensuite, il fournit une explication complexe kabbalistique des anges et des nations différentes qui s'inspire largement d'un commentateur biblique et kabbaliste italien de la fin du XIIIe siècle, Menahem Recanati. Pas mal de développement kabbalistique de ce type figure dans les annotations marginales d'Isaac et sur les pages manuscrites qu'il remplit de ses pensées. Il y a une dernière forme de la correction chrétienne qui joue elle aussi un rôle important dans le travail d'Isaac et qui peut être déterminée la fortune de ses travaux. En mars 1564, comme j'ai dit, Plantin va à Louvain, accompagné d'Isaac et de l'exemplaire corrigé de Panini, afin de montrer le livre au censeur. C'est un prêtre et professeur d'hébreu qui s'appelle Cornelius Petri, un homme qu'Isaac connaissait et aimait. À partir du XVe siècle, comme l'on sait, les autorités civiles et religieuses sentent le besoin de créer un cadre plus solide à la censure. Le succès de l'édition imprimée se produisant parallèlement aux multiples crises au sein de l'Église, l'imprimerie prend de fait une part active dans la diffusion de nouvelles doctrines, comme le protestantisme. Pour éviter de tels problèmes, un système de la censure prend forme définitive aux années 50 et 60. Tout manuscrit écrit par un auteur catholique doit être soumis, soit par l'auteur, soit par le libraire, l'imprimeur, à un censeur qui peut soit le renvoyer, soit demander des corrections, soit l'approuver. Il doit formellement paraffer chaque page du manuscrit et en faire un rapport détaillé. des textes qui concernaient l'interprétation de la Bible hébraïque et sa relation à la version vulgate, comme le lexique de Panini, étaient encore plus délicates que d'autres textes. Les censeurs devaient en principe lire un tel manuscrit avec un œil aiguisé pour des erreurs doctrinales et exégétiques. Et ils l'ont fait. À la fin de la vie productive et énergétique de Carlo Segonio, le grand savant bolognais, la congrégation de l'index le réprimant en détail pour d'avoir fait allusion positive à l'erreur d'Érasme, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des erreurs dans la Bible qui proviennent de la condition humaine des scribes. C'est le Concile de Trente avait décrété que les chrétiens devaient accepter l'autorité absolue de la Vetus et Vulgata Editio, de la version vulgate, quand Sigonio suggère très modestement qu'il pourrait y avoir des petites erreurs dans la chronologie, donc dans les computations chronologiques de la Bible. Les censeurs l'ont attaqué immédiatement en lui faisant cette reproche assez grave d'être érasmien. C'était une reproche assez sérieuse aux années 80 en Italie. Plantin et Succeur avaient un avantage. Ils connaissaient leurs censeurs personnellement. Ils leur donnaient des cadeaux. Ils menaient des conversations avec eux. Plantin pouvait rassurer Juste Lipse, par exemple, qu'il n'y aurait aucune difficulté à imprimer ses lettres aux protestants, en précisant qu'il avait l'habitude d'apporter les différentes sortes de livres qu'il publiait à des censeurs particuliers qu'il avait identifiés comme sympathiques. Dans ce cas, la confiance de Plantin était justifiée. Plantin et Isaac soumettent le lexique au censeur de Louvain, Cornelius Petri. Les annotations qu'il inscrit dans le livre suggèrent qu'il a traversé ces pages énormes avec une rapidité impressionnante. Le 9 mars, c'est le 9 mars, il donne permission d'imprimer les colons 1 jusqu'à 1416. Le 10 mars, il approuve le reste du livre, après avoir examiné 45 colonnes en une seule journée. En général, puis, on pourrait dire que le processus de censure qui devait subir le lexique comme corrigé par Isaac n'était guère sévère. Mais Petri qualifie ses approbations. Dans chacune de ses attestations, il dit qu'il approuve l'impression du texte original avec toutes les annotations qui n'ont pas été biffées. Et ça, c'est la clé de la réaction d'Isaac et de son autocensure, si on peut utiliser le terme. À un certain moment, avant que Isaac et Plantin partent en voyage sur la route de Louvain, Isaac excise nombre de ses remarques les plus vives. Il supprime une grande partie du matériel qu'il a ramassé sur la Massora. Il élimine ses remarques personnelles, comme la longue plainte que sa propre bibliothèque ne comporte que très peu de livres. Il excise des plaisanteries assez inoffensives. Parmi les milliers de mots que Panini discute, apparaît Pilegesh, la concubine. C'est un mot curieux, peut-être d'origine grecque. Certains pensent, note Isaac dans son annotation marginale, qu'il s'agit d'un mot composé de Isha, femme, et de Pileg, fracture, frangée, c'est-à-dire la moitié d'une femme. Parce qu'ils ne sont pas légalement mariés, on ne les prend pas pour des femmes entières, mais pour des moitiés. Mais moi, je ne crois pas que cette étymologie soit correcte, car j'ai vu pas mal de concubines qui revendiquaient plus de droits sur le mari que les épouses légales oseraient faire. À une époque où les savants florentins devaient censurer le Boccace bien-aimé, voici ce qui arrive à Boccace dans une édition des années 60 à 70. Cette sorte de plaisanterie n'était plus acceptable. Isaac supprime également des passages plus substantiels, par exemple l'interprétation kabbalistique qu'il avait donnée à Gropius des anges du livre de Deutéronome et sa description de sa visite à Bomber. On le voit, le correcteur est vraiment, il est non seulement le garçon de café qui se met à travailler rapidement, mais c'est aussi vraiment... c'est un peu pitoyable. C'est l'homme souterrain, comme dit notre correcteur. Le correcteur, et en particulier, c'est vrai pour le correcteur qui vit sous un régime de suspicion et de censure. Il fait attention à un autre correcteur, celui qui a élu domicile dans son esprit, et qui lui instruit comme il peut rendre inoffensif son propre travail et le texte qu'il corrige avant même qu'il doive les produire à la fin de l'inspection officielle. Et même cette forme intensive d'autocensure ne suffisait pas à la complexité de cette situation. Plantin n'a jamais osé sortir le lexique dont la correction lui a coûté tellement cher. La correction, semblait-il, était un métier vraiment difficile, aussi difficile que complexe, et en partie à cause du grand nombre, de la grande pluralité de rôles que le correcteur devait jouer. Mais dans certaines circonstances, néanmoins, une vraie collaboration pourrait s'installer entre un correcteur et le savant qui dirigeait l'édition sur laquelle le correcteur travaillait. Le 25 mars 1568, Philippe II approuve le projet de la polyglotte d'Anvers en promettant son soutien financier. Mais dans la lettre dans laquelle il communique sa décision à Benito Arias Montano, l'ébrisant espagnol qui devrait s'occuper de l'édition en tant qu'éditeur, il pose une condition sévère. Montano lui-même doit corriger les épreuves dans l'atelier de Plantin. Pour vous assurer que le travail atteint le niveau de perfection approprié de sa valeur, digne de sa valeur, vous vous permettrez de corriger avec votre propre main les premières épreuves dans chaque langue. Et une fois qu'elles ont été corrigées et approuvées, vous allez signer avec votre propre sceau ou quelque chose de semblable. Montano doit s'emprisonner dans l'atelier de l'imprimeur, doit corriger les épreuves feuille par feuille, doit voir ses doigts tachés d'encre, comme s'il était un pauvre diable de correcteur. Le grand savant ne prend pas plaisir sur cette éventualité. Quand même, il décide, comme il explique dans une lettre à ses collègues de l'Université de Louvain, qu'il doit obéir. Quoique je considère ce travail à la fois très difficile et très ennuyeux, je l'entreprends avec la révérence convenable. Les épreuves corrigées de la Bible polyglotte, qui se trouvent actuellement à Anvers, et il y en a deux volumes de ces épreuves, c'est un cas très exceptionnel, portent en image les taches d'encre et d'autres substances qui témoignent que Montano a vraiment fait son devoir. On ne possède actuellement que très peu des milliers et milliers des épreuves qui ont été corrigées au 16e et 17e siècle. Mais Plantin, on le sait, a développé une sorte de système de classement, au moins pour les manuscrits de ses auteurs, afin de pouvoir se garder contre leurs reproches quand ils trouvaient des coquilles dans le livre. Ils pouvaient montrer, « Ah non, mon cher, c'était déjà dans votre exemplaire que j'ai suivi très soigneusement. » C'est probable donc qu'il a aussi développé un système d'archivage pour quelques-unes des épreuves, l'épreuve des projets les plus importants. Il y a une annotation de Montano où il dit à Raphaelengius qu'il faut garder une probam cum alis, une épreuve avec les autres, ce qui semble donner la confirmation. Nous ne savons pas à quel point dans le processus d'impression ces épreuves ont été tirées et corrigées. Selon Philippe II, Montano devrait corriger les premières épreuves en les signant. Oui. Et il a vraiment signé les épreuves. Vous voyez là ses initiales en hébreu, Benito Arias Montano, et son sceau qui porte le mot judéo-arabique, qui porte un mot arabique, Talmid, étudiant. Et c'est le sceau qu'il utilise sur chaque feuille. Mais on voit aussi, on s'aperçoit aussi des impressions faites par les barres et par les, et par les quadres en hébreu sur les pages. Ce sont des marques qui appartiennent normalement au premier stade de l'impression et pas au dernier. Mais il semble impossible aussi que ces épreuves, puissent être les premières. Elles sont imprimées sur du papier normal, à deux côtés de la page, non tirés d'un cliché à un moment, sur un côté d'une feuille. Et les textes qu'elles portent semblent être déjà dans un état assez avancé. Si on voit là, il n'y a pas nombre de coquilles corrigées par Raphaëlengius. En 1571, les censeurs de l'Université de Louvain, Unaeus et Reinerus, remarquent dans une lettre à Plantin que Montano s'habitue normalement à lire la dernière épreuve, Ultimam Probam. Mais ces épreuves ne peuvent guère représenter la dernière étape de l'impression. Il y a encore trop de corrections trop radicales pour ça. Quelle que soit leur place dans le processus de fabrication, elles nous racontent une histoire complexe et fascinante. Elles montrent en premier lieu que les anecdotes qui portent sur l'usage du latin dans les maisons des imprimeurs n'ont pas été exagérées. Plusieurs des annotations dont les épreuves sont chargées représentent des conversations entre Montano et le correcteur en chef, Raphaëlengius, sur des questions techniques, et ils sont tous en latin. Voici par exemple Montano qui utilise le latin. Je regrette la qualité de la reproduction, mais c'est peut-être lisible là. Quand il demande à Raphaëlengius de corriger la justification des lignes de la préface de Jérôme à Jérémie. Mais les épreuves, et on voit aussi que Montano est maintenu une certaine distance de la correction en tant que profession. Il n'utilise pas les signes des correcteurs. Raphaëlengius, en revanche, les utilise continuellement. Par exemple, quand il demande un changement de l'espacement des mots dans ce titre de la préface de Saint-Jérôme à Ézéchiel. Mais on voit que lui aussi utilise le latin dans une annotation à Montano qui porte sur un mot problématique du texte. Voici une annotation assez détaillée de Montano qui porte aussi sur l'espacement des mots, donc sur la mise en page. Comme Erasme et Lips, Montano s'intéresse non seulement à la constitution du texte, mais aussi au paratexte, au titre, aux tables de contenu, au texte de présentation. Au fin du quatrième volume, par exemple, il remarque qu'il trouve l'approbation du censeur un peu trop courte, c'est après le prophète Malachi. Et il fournit Raphaëlengius avec l'ébauche d'une approbation plus étendue, dans laquelle la position de son propre nom semble l'intéresser vivement. Puis il remarque, faites-le de cette façon ou d'une autre si ça vous semble préférable. À la fin du livre de Genèse, en revanche, il registre son approbation du colophon en hébreu et remarque qu'il ne voit pas aucune nécessité d'ajouter d'autres colophons dans les langues grecques, latin, comme ça. Donc, il s'engage très activement dans des questions assez techniques, toujours en parlant latin avec son collègue. Les textes restent labiles lorsque Montano et Raphaëlengius corrigent ces épreuves. ces épreuves. Plus d'une fois, Raphaëlingius s'en lave les mains métaphoriquement quand il s'agissait d'un problème textuel et demande une indication définitive de Montano. On voit par exemple au chapitre 38 d'Isaïe, c'est le prophète qui décrit le signe donné par le Seigneur au roi Ézéchias. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre de degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Raphaëlingius offre une nouvelle traduction d'un mot qui inspire Montano à dessiner un schéma du cadran solaire en question et d'offrir une deuxième traduction alternative. Il demande à son collègue qu'il garde cette épreuve par moi avec les autres pour étayer notre explication. Donc on voit que des questions de critique textuelle et de traduction sont encore très présentes. Les annotations les plus intéressantes, à mon opinion, nous permettent de comprendre les difficultés intellectuelles formidables auxquelles Montano et Raphaëlingius affrontaient lorsqu'ils s'occupaient des questions, des problèmes textuels qui portaient directement sur des traditions exégétiques, liturgiques et théologiques. Au chapitre 21 de l'Évangile de Matthieu, par exemple, Jésus dit « J'en ai venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. » Dans le texte de la Vulgate, on trouve « Nec penitentiam habuistis » et « Vous n'avez pas eu pénitence ». En revanche, le texte latin de la polyglotte dans les épreuves, dans recipuistis, n'avait pas repenti, en utilisant le verbe latin recipiscere, un équivalent plus proche du verbe grec original. Dans le marge de cette page des épreuves, Montano met Raphaëlingius en garde. Tous ne voudront pas bien accepter ces mots recipiscere, puisque certains considèrent qu'il est suspect, et je me souviens aux censeurs de Louvain qui m'en ont parlé. Il conseille la restauration de pénitentiam, pénitence, ou l'utilisation de sa forme verbale, quoiqu'il ne rejette pas l'alternative suggérée par Raphaëlingius. Ces notes assez sèches, cette annotation assez sèche de contenu, nous permet de regarder deux disciples d'Érasme, comme il essaie de réconcilier les exigences de la méthode philologique avec celles de la censure ecclésiastique. Dans le troisième chapitre de Matthieu, Jean-Baptiste déclare « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Dans la Vulgate, on trouve « Penitentiam agite », »,« Faire pénitence »,« Faites pénitence ». Érasme, dans l'un des passages les plus célèbres de son Nouveau Testament, remplace la traduction de la Vulgate par « Recipiscite », »,« Repentez-vous », ce qui correspond mieux, à son avis, au verbe grec original. Metanoete, pensez encore une fois, revenez à vos sens. Le changement reflète non seulement la méthode philologique d'Érasme, mais aussi sa conviction absolue que Jésus s'était intéressé moins aux observances extérieures que l'état intérieur des âmes. De nombreux lecteurs, notamment Martin Luther, ont accepté cette nouvelle traduction et interprétation du texte. Les protestants allaient jusqu'à le comprendre comme un défi fondamental au sacrement de la pénitence. Confronté non seulement à la critique érasmienne, mais aussi à la montée de la forme protestante, c'était l'Église protestante catholique qui avait ressenti la nécessité de réaffirmer la suprématie de la version vulgate. Il semble évident que Montano et Raphaëlingius, quoi qu'il travaille à l'époque du Concile de Trente, Montano avait assisté personnellement au Concile de Trente, partage toujours les sentiments et veut suivre toujours la méthode d'Érasme. C'est vrai qu'il doivent travailler avec la censure toujours présente, non seulement dans le processus de la production de texte, mais aussi dans l'esprit. Quand même, on voit que quand ils effectuent la correction des épreuves, ils participent ensemble, non seulement à un projet philologique, ils forment une sorte de petite communauté religieuse et intellectuelle avec Plantin, une petite communauté érasmienne. Et ils veulent produire une Bible qui réponde aussi bien que possible dans les conditions aux exigences et aux méthodes philologiques d'Erasme. Ce processus de collaboration forgeait un lien profond humain entre Montano et Raphaël Guius. C'est vrai que Montano dirige le projet. C'est vrai que Raphaël Guius reste l'assistant qui demande toujours l'opinion de Montano, qui ne veut pas bien établir les textes définitifs, même le texte grec du Nouveau Testament, par soi-même, sans avoir les conseils de son ami. Quand même, et c'est vrai aussi que Montano reste toujours dans l'Église catholique, tandis que Raphaël Guius finira quelques années plus tard comme un professeur à l'université calviniste à Leyde. Et il semble qu'il a déjà des sympathies protestantes, tandis qu'il travaille sur la polyglotte. Quand même, il devient de vrais partenaires. Quand la Bible polyglotte est critiquée comme pleine de bévues et d'erreurs élémentaires par un évêque orthodoxe, Guillemus Lindanus, Raphaël Guius demande à Montano qu'il défende non seulement l'édition qu'ils ont produite ensemble, mais l'honneur de la maison de Plantin. Montano fait de son mieux, très courageux, avec beaucoup de courage, à Rome et en Espagne et presque partout. Il y a une annotation superbe qui se trouve dans ces épreuves, une annotation particulièrement révélatrice. Il semble que Raphaël Guius a été délivré d'un danger, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Et Montano écrit sur la marge des épreuves, « J'ai remercié au bon Dieu que vous êtes rétabli sain et sauf. Et j'ai dit à Plantin, que je vous considère mon très cher frère. » En fin de compte, Montano, le grand savant, a appris à voir Raphaël Guius, le correcteur modeste, son camarade et peut-être son égal dans une lutte à laquelle tous deux étaient indispensables. Peut-être y a-t-il toujours des gens bien élevés qui croit, je cite une dernière fois l'auteur des Souvenirs de la Maison des Mots, que le métier du correcteur consiste à corriger les fautes d'orthographe. Au XVIe siècle, on l'a vu, il y avait pas mal de savants qui ont cru exactement ça, mais on voit qu'il y avait aussi des éditeurs et des savants qui en savaient mieux. Qu'il existe aujourd'hui des savants et des éditeurs qui comprennent mieux la situation, le rôle et l'importance des correcteurs. Je vous remercie.